France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Tiens, anecdote de vie de rédaction, aujourd'hui, pour la première fois, nous avons croisé un journaliste dans les couloirs de Radio France qui, à la question « Comment ça va ?» a répondu « Comme un vendredi ». Voilà, alors veille d'un long week-end. Oui, pour certains, le travail libère vraiment en fait des obligations familiales. Merci à lui. Et eux, ils se réjouissent d'être là, installés autour d'une belle table, hein, avec la climatisation leur tombant sur la nuque et un rhume prochain à venir. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Swazik Kemener. Bonsoir.
Bonsoir.
Du journal Marianne. Également Isabelle Véramasson. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de communication médiatique. Également Bruno Roger Petit. Bonsoir.
Bonsoir.
Éditorialiste à challenge.fr. Et Eric Scholl. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de Courrier International. Et ce soir, un dernier shot de politique avant le repos. On ira aux États-Unis, on parlera d'Emmanuel Macron, une journée pour la mémoire et plein de nouveaux amis qui font peut-être des petites bêtises. Front National également, peut-être une future alliance avec Nicolas Dupont-Aignan. Jean-Luc Mélenchon a retrouvé la parole. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Le Front National s'est tellement dédiabolisé qu'on a l'impression que Marine Le Pen est le fruit de l'Immaculée Conception. On connaît sa mère, mais son père, qui est-ce? C'est Jean-Marie Le Pen. Vous êtes sûr? Bah oui, Jean-Marie Le Pen est le père de Marine Le Pen. Ah bah ça y est, tout de suite, les deux noms ont la même musique, alors on pense que c'est le père et la fille. Voilà quelques arguments qu'on pourrait entendre chez les proches du Front National pour différencier la fille du père Le Pen. Aujourd'hui, le Front National, canal historique, a fait parler de lui. En effet, accusé de propos négationnistes, Jean-François Jalc a renoncé à assumer l'intérim de Marine Le Pen après la mise en retrait de la candidate en début de semaine. Il a été remplacé par Steve Briois. Puis Jean-Marie Le Pen, qui dans son journal de bord sur Internet, décide de commenter l'hommage rendu mardi dernier aux invalides. Aux policiers tués sur les Champs-Élysées, Xavier Jugelet, pardon, et au discours de son compagnon. Voilà l'interprétation de Jean-Marie Le Pen.
Il m'a semblé qu'il y avait dans cette cérémonie une équivoque et qu'on rendait plutôt hommage qu'aux policiers à l'homosexuel, car la participation de son conjoint, le long discours qu'il a prononcé, en quelque sorte institutionnalisé le mariage homosexuel et en l'exaltait en quelque sorte d'une façon publique, et cela, ça m'a un peu choqué.
Voilà, Jean-Marie Le Pen, donc nouveau dérapage. Swazik Kemener, c'est pour rappeler qu'il est toujours là.
Est-ce qu'on a oublié? Est-ce qu'on a tous perdu la mémoire? C'est ça? C'est là d'où vient le FN. On a eu un gros coup de peinture. On a eu une dédiabolisation qui a été orchestrée minutieusement depuis 2011 par Marine Le Pen, depuis qu'elle a pris la tête du parti. Mais c'est comme de la peinture. Au bout d'un moment, ça craque et puis on voit la couleur d'origine. Voilà la couleur d'origine. Alors évidemment, il y a un jeu entre le père et la fille. Ça, c'est évident. Ça dure déjà depuis des mois et des mois.
Des années même.
Mais c'est la crise en tout cas est récente. On se souvient du parricide de Marine Le Pen et on voit bien que son père garde ses vieux réflexes, et puis il y a une volonté aussi peut-être dans la dernière ligne droite de faire un petit signe à sa fille.
Ouais, c'est ça, Bruno Roger Petit, finalement ces deux affaires là qui se percutent, Jean-François Jalc donc, et en effet ce nouveau dérapage de Jean-Marie Le Pen, c'est aussi parce que il y a le 1er mai, Jean-Marie Le Pen va s'exprimer, donc il veut montrer qu'il existe.
C'est intéressant. Moi, je n'exclus pas que Jean-Marie Le Pen le fasse de manière délibérée pour nuire à sa fille. Parce qu'il l'a fait très souvent. Chaque fois qu'elle est dans une position médiatique, entre guillemets, plutôt favorable, il surgit pour dire ou proférer une monstruosité. Cela étant, c'est vrai, comme le dit très bien Swazik Kemener, c'est une bonne piqûre de rappel des fondamentaux du Front National. Regardez ce qui s'est passé avec Jean-François Jalc, adhérent du Front National en 1974, donc 2 ans après sa fondation, qui est un pilier, qui a été député en 1986, 88, puis député européen, puis conseiller régional. Bon, ce monsieur tient des propos révisionnistes en 2000, publiés en 2005, et qui lui reviennent dans la figure parce qu'il devait remplacer quelque temps à la présidence du Front National Marine Le Pen. Le Front National l'enlève. Mais attention, il ne faut pas être dupe de l'ambiguïté du message. On ne lui demande pas de démissionner de son mandat de député européen. On ne lui demande pas de quitter le Front National. Marine Le Pen dit, le pauvre garçon, il faut se mettre à sa place, il a été victime d'une horrible diffamation. Bon, si c'est une diffamation, il porte plainte et puis ça se règle devant les tribunaux. Donc il y a une ambiguïté du Front National avec effectivement le fait que derrière la vitrine repeinte aux couleurs d'un gaullisme racisme d'importation qui est en fait une falsification qu'a orchestré Florian Philippot dans les arrière-boutiques de la maison. Vous avez toujours Monsieur Jalques, vous avez toujours Monsieur Chatillon, vous avez toujours Monsieur Lousteau et un certain nombre de zozos qui sont quand même extrêmement inquiétants et qui sont, il faut bien le rappeler, des proches de Marine Le Pen.
Voilà, et on se souvient notamment au moment des élections départementales, hein, certains ont été renvoyés du Front National, notamment sur cette comparaison Christiane Taubira et un singe, enfin il y avait beaucoup...
Vous avez des gens qui sont renvoyés du Front National et vous avez aussi, je termine très vite, 28% des élus municipaux du Front National en 2014 qui ont claqué la porte et qui sont partis parce qu'ils ont découvert ce qu'était la réalité justement de l'arrière-boutique Front National.
Isabelle Vermasson, c'est vrai qu'on se souvient des dérapages donc de certains candidats, on voit que Jean-François Jalques donc a tenu des propos négationnistes. Et à un moment aussi, pendant cette campagne, il y a quand même eu Marine Le Pen, on se souvient, qui avait nié la responsabilité de l'État français sur la rafle du Vélib'. Ça veut dire que il y a quoi ? C'est un passé finalement qui a du mal à passer justement pour le Front National ?
Elle n'a pas mis en cause l'État français.
Non, la responsabilité, de la France.
Oui, bien sûr. Facile. Oui, oui. Mais oui, elle a dit la France et la question est plus ambiguë, plus difficile pour l'historienne que je suis que d'autres situations. Parce qu'on peut dire effectivement, comme l'a dit Annette Vieux-Viorca, une grande spécialiste, que la France était aussi à Londres. Hein. Mmh. Donc là, le débat est plus compliqué et mériterait d'être discuté. En revanche, il est vrai qu'elle est à travers son père et à travers son parti, ça est souvent accusé sur la Seconde Guerre mondiale. Reconnaissons aux journalistes l'envie de la titiller sur ces questions-là, parce que c'est là que le Front National est particulièrement faible, à cause de son passé, à cause de Jean-Marie Le Pen.
Et donc, mais elle ne veut pas être interviewée, par exemple, ce soir, elle est interviewée chez Hôtel Krief, vous avez vu, elle est interviewée, tout de suite elle botte en touche. Elle a botté en touche tout à l'heure. J'ai vu l'interview. De suite nié Emmanuel Macron par rapport à l'UOIF, etc. Elle parle tout de suite d'autre chose.
Non. Elle s'est longuement expliquée sur sa position à l'égard de la Seconde Guerre mondiale, disant qu'elle s'était disputée avec son père, fâchée avec son père, pas à cause de ses propos. Le détail, etc. Donc là, elle rappelle, et d'ailleurs, Hôtel Krief l'a fait avec beaucoup d'honnêteté, qu'il y avait une différence entre elle et son père sur ces questions-là. Mais bien sûr, sur...
Il n'y a plus de différence aujourd'hui là-dessus.
En tout cas, je vous dis ce qu'elle a dit. Il n'y a pas de doute sur ce qu'elle a dit. Une autre chose, c'est ce que nous pensons véritablement. Mais voilà, là-dessus, elle a dit clairement les choses, que c'était une abomination, qu'il n'y avait pas de doute là-dessus. Donc, il faut plutôt aller chercher du côté de son entourage.
C'est ce que disait Mme Brunet.
Voilà, que sur elle, elle est effectivement, et c'est dans l'entreprise de diabolisation, elle n'est pas si mauvaise que ça quand même pour réussir.
On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Pierrick Bonneau.
Alors que Marine Le Pen appelle les électeurs de la France insoumise à faire barrage à Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon le confirme ce soir sur sa chaîne YouTube. Il ne donnera pas de consigne de vote. Le leader de la France insoumise ira voter, mais en aucun cas pour l'extrême droite. Tout le monde sait que je donnerai pas ma voix au FN, mais je ne vais pas dire mon vote. Jean-Luc Mélenchon ajoute qu'il va sans doute diriger la manœuvre pour les élections législatives. Le premier soutien officiel d'un chef d'État étranger en faveur d'Emmanuel Macron dans un entretien à des journaux allemands, la chancelière Angela Merkel indique qu'elle souhaite l'élection du candidat centriste. Je n'ai pas le moindre doute qu'Emmanuel Macron, s'il devait être élu, ce que je souhaite sera un président fort. Ce sont ses mots. Sur son compte Facebook, le cinéaste Luc Besson dénonce, lui, je cite, « la belle arnaque de Marine Le Pen ». Il appelle aux urnes pour le second tour et s'interroge à quelle période de l'histoire et dans quel pays le repli sur soi-même a-t-il marché ? Jamais, répond-il. Léger mouvement de panique vers 18h ce soir à la station de métro Place de Clichy à Paris. Un fonctionnaire de la préfecture de police a tiré accidentellement. Il n'y a pas de blessés, mais grosse frayeur pour les usagers du métro, nombreux dans la station à cette heure-là. Le pape François en visite en Égypte, théâtre de plusieurs attentats meurtriers dans des églises coptes il y a 3 semaines. Aucune violence ne peut être perpétrée au nom de Dieu, martèle le souverain pontife qui appelle au respect inconditionnel des droits de l'homme.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de Marine Le Pen du Front National et on vient de l'apprendre donc sur France 2, Nicolas Dupont-Aignan donc annonce son soutien à Marine Le Pen et espère constituer ainsi une majorité présidentielle. Éric Scholl, finalement, dans la logique, est-ce qu'on s'attendait finalement à ce soutien ?
Ces tout derniers jours, on pouvait s'y attendre, mais quand on voit la campagne que lui a menée, c'est très surprenant parce qu'il a dit à peu près l'inverse il y a quelques jours, il se réclamait d'un patriotisme.
Je précise juste, il a signé un accord de gouvernement, voilà ces termes sur France 2. France 2 tout à l'heure.
Donc il va d'une certaine façon à la soupe, non pas la soupe présidentielle, parce que je ne suis pas sûr qu'il croit dans la victoire de Marine Le Pen, mais derrière pour lui il y a d'autres intérêts, c'est sans doute de faire vivre son mouvement, il y a les législatives, il est sans doute à la recherche de postes et aussi d'argent, parce que il faut pas oublier que sa campagne présidentielle lui a coûté cher, il est passé tout près de cette barre des 5% qui lui permettait d'avoir un gros financement de l'ordre de 8 millions d'euros, je crois. Il n'en aura finalement que 800 000. Il est très loin d'avoir remboursé tous les frais de sa campagne. Donc, il faut pour lui... Et c'est sans doute ce qui a été compliqué, c'est de savoir comment faire pour garder à peu près tous ses électeurs en se déterminant, en prenant un choix. Il fait ce choix-là, et il va essayer ensuite de le transformer aux législatives.
Est-ce que, Soïc Kemener, est-ce qu'on est justement, comme le dit Eric Scholl, c'est une logique ou pas? Parce que c'est vrai que dans la campagne, on a senti un positionnement souverainiste, pas forcément allant vers Marine Le Pen, plutôt essayant de voler des voix à François Fillon. Est-ce que là, ce soir, finalement, il y a cette histoire d'argent qui joue?
Vous vous souvenez ce qu'avait dit un de ses anciens mentors, Philippe Séguin? Il avait parlé de ceux qui vont à la soupe, la petite soupe. Hein, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'effectivement, il a besoin d'argent. En même temps, c'est compliqué dans son parti parce qu'il y a eu des discussions assez âpres toute la journée. Ça a duré pendant 5 heures. Parce qu'il y a des personnes importantes dans le parti qui, alors on les connaît pas très bien, c'est pas des grandes figures médiatiques, mais qui comptent dans le parti et qui disaient que de toute façon, ils allaient démissionner immédiatement parce que ce qui faisait la spécificité du mouvement de Nicolas Dupont-Aignan, on se souvient, il avait quitté sa famille d'origine, la droite, républicaine, et il expliquait en fait que lui, son intérêt, c'était d'être totalement indépendant. Et que c'était pour ça, d'ailleurs, qu'il imprimait sa marque depuis un petit bout de temps. Alors, il était en lisière, hein, évidemment, du Front National, mais il faisait bien attention à rester plus modéré, regarder sa campagne. Par exemple, il avait davantage parlé aux électeurs de François Fillon. Par exemple, sa proposition de sortie de l'euro, il l'avait enlevée dans son dernier livre. Hein. Il avait adouci encore les contours. Donc là, oui, il va à la soupe, clairement. Pour que ça marche, pour lui, hein, si on regarde de son côté à lui, il faudrait déjà que Marine Le Pen soit élue. Ensuite, il faudrait qu'elle ait une majorité, parce que ce qui se murmure en coulisses, c'est ce qu'il a dealé. Alors, on va voir si ça se confirme, ce qu'il va dire exactement sur le plateau de France 2, mais il rêve de Matignon.
Oui, c'est ça. Richel.
Non, juste un tout petit mot, c'est que pour celui qui a été, il y a longtemps maintenant, le conseiller ministériel de François Bayrou, de Michel Barnier, deux grands Européens, quelle dérive. Et c'est pitoyable, ce long chemin.
Bruno Roger-Petit, est-ce qu'on se souvient, en 2002, il y avait un parti qui avait appelé à voter Jean-Marie Le Pen, c'était le MNR de Bruno Maigret, qui avait soutenu. Là, est-ce que on est dans la même chose ou c'est plus important finalement?
Non, c'est plus important. C'est très intéressant de voir que quelqu'un comme Dupont-Aignan qui se réclame du gaullisme quand même, au même titre que Henri Guénaud qui dit qu'il ne votera pas pour Emmanuel Macron, ou que Marie-France Garraud, que les jeunes ne connaissent pas, mais qui est une grande figure du gaullisme historique, conseillère de Georges Pompidou, qui donnait des leçons de gaullisme à Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac en 1980. C'est très intéressant de voir que le surmoi gaulliste, par rapport à l'ennemi héréditaire quand même, c'est-à-dire les héritiers du pétainisme, parce que le Front National, faut-il le rappeler, c'est un parti fondé par des héritiers du pétainisme. C'est très intéressant de voir que la digue morale posée par Chirac, Juppé et leurs camarades de l'époque dans les années 80-90 a complètement sauté. C'est-à-dire, et c'est ça qui est très important pour ce qui va se jouer dans les années qui viennent, la digue morale sautant, le Front National n'est plus un problème, justement, moral. Ça ne devient plus qu'un problème stratégique et tactique. C'est-à-dire, comment on fait pour tirer parti de l'existence du Front National? Donc vous avez Dupont-Aignan qui va, lui, directement à l'accord, et puis vous avez des gens qui vont commencer à vous dire il faut parler avec eux, et puis vous allez avoir deux types de tensions, d'abord au sein de Les Républicains, ça va commencer à s'exercer, puisque vous voyez bien qu'entre Raffarin qui s'affiche avec Macron, et puis Wauquiez qui dit j'ai pas tellement envie de prononcer le nom d'Emmanuel Macron, voilà, il y a des tensions, et vous voyez bien que sur ce que Patrick Buisson appelait le populisme chrétien, il y a la possibilité d'une convergence entre une partie de la droite aujourd'hui, Laurent Wauquiez et quelques autres, et ce que porte Marion Maréchal Le Pen. Donc il y aura double tension en interne à l'intérieur des Républicains, mais aussi à l'intérieur du Front National, parce que la ligne économique et sociale de Philippot empêche aujourd'hui que se tendent les mains entre les Républicains conservateurs populistes chrétiens et les Front Nationalistes tels Marion Maréchal et Le Pen, qui sont sur la même ligne sociétale.
Alors Isabelle Vermasson, ce qu'a dit aussi Nicolas Dupont-Aignan, il dit, bon, j'aurai des candidats partout, mais surtout il dit ce soir, Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite. Est-ce que ça fait partie, voilà, alors tout à l'heure je parlais de problèmes de dédiabolisation, là on y est totalement. Ça veut dire qu'il y a un leader, alors d'une petite formation, mais qui a fait 4,75% aux élections présidentielles tout de même, qui dit aujourd'hui Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite.
Oui, c'est un débat que nous avons beaucoup en ce moment sur la définition de l'extrême droite, parce qu'évidemment, on voit bien que les frontières se sont déplacées en ce qui concerne les clivages partisans, la gauche, la droite, etc. On est très frappé de voir tous ces drapeaux bleu, blanc, rouge dans les manifs de, enfin dans les meetings de gauche et même d'extrême gauche. Par exemple, la question de la nation qui a été d'abord à gauche, ensuite qui est passée à droite et qui est en train de passer vers la gauche. Et là, on voit bien que sur cette histoire d'extrême droite, alors je voudrais revenir un petit peu sur ce que vous venez de dire, sur le passage à droite de ces gaullistes qui sont en réalité des souverainistes, c'est-à-dire en fait c'est plutôt la famille de Jean-Pierre Chevènement. C'est-à-dire qu'on voit bien que Florian Philippot fait partie...
Il a fait un très court passage.
On voit bien que les marqueurs passent plutôt par là. C'est-à-dire que l'idée de nation, l'appartenance, la protection par la nation, par la question de l'identité nationale, est en train de déplacer les appartenances gauche-droite.
Henri Guénaud lui a dit, par exemple, moi je ne vote pas Marine Le Pen.
Intéressant. Il a dit qu'il ne votait pas Marine Le Pen, mais il n'a pas dit qu'il votait non plus Macron.
Il ne vote pas Macron. Il a dit, voilà.
Pardon, j'étais en train de me dire que je ne l'avais pas entendu dire ça. J'étais prêt à vous croire. Non, donc oui, quand quelqu'un... Oui, je ne vous croirai plus jamais. Donc effectivement, on voit bien que dans l'attitude d'Henri Guénaud, il y a une vraie ambiguïté. Cette question de la nation est en train de déplacer les clivages droite-gauche. Et en ce qui concerne l'extrême droite, la question de l'extrême droite traditionnelle, c'est-à-dire autoritaire, non démocrate, ce n'est pas comme ça que se présente Marine Le Pen. Est-ce que jamais l'extrême droite ne s'est présentée officiellement comme ça? Jamais. Elle est toujours arrivée plutôt devenue de la gauche. En se cachant sur ses véritables motivations.
Soyez Kemener, finalement, ce que disait Bruno Roger Petit, est-ce qu'aussi l'argument de ce que fait ce soir Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que ça peut décomplexer certains autres, notamment, je ne sais pas, peut-être des députés les Républicains menacés par des sièges, notamment dans le Sud, Nord, Ouest?
Mais bien sûr, mais c'est toute la question qui se pose actuellement chez les Républicains. Effectivement, il y a une ligne de fracture très importante entre ceux qui voulaient dire, qui ont dit d'ailleurs tout de suite, on vote Emmanuel Macron. Alors il y a ceux qui ont dit on pourrait même gouverner avec lui, ça c'est encore une autre partie. Et puis il y a ceux qui ont regardé les résultats dans leur circonscription, et c'est une catastrophe. Donc ils sont très inquiets, et j'ai peur effectivement que les digues, que ce soit que le début. Alors là, Nicolas Dupont-Aignan, Éric Scholl avait tout à fait raison de le rappeler tout à l'heure, ça cède aussi pour des raisons financières. Quand on va voir l'accord, ça va pas être joli, à mon avis. Il va y avoir des digues qui vont céder certainement un peu partout. On n'a pas fini d'en voir, je pense.
Allez, dans un instant, on va voir ce qui se passe du côté de Jean-Luc Mélenchon. L'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
Nicolas Dupont-Aignan rallie le camp Le Pen. L'ex-candidat de Debout la France affirme chez nos confrères de France 2 qu'il a signé un accord de gouvernement avec la candidate d'extrême droite. Si elle est élue, Nicolas Dupont-Aignan fera campagne avec Marine Le Pen les 8 jours qui restent avant le second tour. Jean-Luc Mélenchon confirme, lui, ce soir sur sa chaîne YouTube qu'il ne donnera pas de consigne de vote pour le second tour. Oui, il ira voter. Non, il ne donnera pas sa voix à l'extrême droite, mais il ne dira pas quel est son vote. Chacun lira entre les lignes. Marine Le Pen, elle, lance un appel aux électeurs de la France insoumise. Pour faire barrage à Emmanuel Macron, il faut mettre de côté les divergences et les querelles, précise la candidate du Front National. Selon elle, le projet du candidat En Marche est aux antipodes de celui soutenu durant la campagne de premier tour. Emmanuel Macron a reçu, lui, 3 soutiens politiques depuis ce matin, de 3 bords différents. Rachida Dati d'abord sur France Info. À titre personnel, je voterai Emmanuel Macron, déclare la députée européenne, tout en critiquant le candidat En Marche, José Bové, l'eurodéputé écologiste. Et puis le commissaire européen Pierre Moscovici glisseront également le bulletin Macron dans l'urne. Nous avons besoin d'un président pro-européen, lance le socialiste. Et puis en pleine entre-deux-tours, on apprend ce soir que 2 cadres du Front National sont visés par une information judiciaire pour des propos haineux à l'encontre du maire de Sevran. Enquête ouverte le 7 mars dernier contre David Racheline, sénateur maire de Fréjus, et Steve Briouat, maire d'Hénin-Beaumont, qui vient justement d'être désigné ce matin président par intérim du Front National.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Soizic Kemener, de Marianne également, Isabelle Vera Masson, spécialiste de communication médiatique, Bruno Roger Petit, éditorialiste à challenge.fr, et le directeur de Courrier International, Éric Scholl. Alors, cet après-midi, on a eu droit à un petit combat par vidéo interposée, enfin un combat pas du tout, mais comme à Noël, ils ont tous reçu des caméscopes, et ben ils ont fait des vidéos, et notamment, ça a commencé par Marine Le Pen, hein, qui, via son site internet, a lancé cette vidéo, carrément un message d'amour aux insoumis de Jean-Luc Mélenchon. On écoute Marine Le Pen.
J'ai été sensible, comme beaucoup d'entre vous, au fait que les drapeaux rouges aient été remplacés par des drapeaux bleu-blanc-rouge et que de belles Marseillaises aient été entonnées par les partisans de la France insoumise. Le symbole du rameau d'olivier est un beau symbole. Je m'adresse à ces électeurs de la France insoumise pour leur dire qu'aujourd'hui, il faut faire barrage à Emmanuel Macron. Toute l'oligarchie qui use contre moi, mais aussi aujourd'hui contre vous, d'arguments indignes veut vous mettre au garde-à-vous derrière le banquier Macron. Je sais que vous êtes plus fort que ça. Tournons la page.
Voilà, et quelques heures plus tard, Jean-Luc Mélenchon, lui, ça y est, s'exprimait enfin depuis dimanche, la première fois sur sa chaîne YouTube. Il a dit qu'il ne donnait pas de consigne de vote. Il a parlé d'extrême finance concernant Emmanuel Macron contre l'extrême droite concernant Marine Le Pen. Il a dit que lui, il ne voterait pas pour Marine Le Pen, il ne donne pas de consigne de vote. Mais il a quand même mis à la fin un petit message, donné un petit message pour ses adversaires.
Ça va bien, ma santé est bonne. Je ne me retire pas de la vie politique, je ne pars pas en retraite, je ne suis pas dépressif, je suis au combat et j'y reste. Et je crois que sans doute je vais encore diriger la manœuvre pour les élections législatives qui arrivent parce qu'il faut transformer tout ça en une force conquérante. Je compte sur vous, à bientôt.
Voilà la première prise de parole de Jean-Luc Mélenchon. Soizic Kemener, entre ces deux vidéos, est-ce que, alors premièrement déjà Marine Le Pen quand elle drague les insoumis comme ça, est-ce que ça peut marcher?
Alors on voit, on a une réponse dans les sondages, en tout cas on voit qu'il y a à peu près 17%, entre 17 et 20% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui peuvent éventuellement être tentés par un vote Marine Le Pen. Mais ce qui est la structure de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon est tout à fait particulière, et c'est aussi pour ça qu'il attise beaucoup de convaincus, c'est qu'il y a 30% des jeunes qui ont choisi de voter pour Jean-Luc Mélenchon, dont souvent d'ailleurs des primo-votants. Donc c'est eux qu'elle appelle en particulier, puisque c'est des électeurs qui n'ont pas sans doute la mémoire de ce qui a pu se passer en 2002 et puis peut-être une mémoire historique de ce qu'est réellement le Front National.
Et qui ne connaissent que Marine Le Pen d'ailleurs.
Oui, donc elle joue là-dessus, elle joue sur le dépassement du clivage droite-gauche, elle joue sur le chaos politique dans lequel on se trouve. Alors après, la vidéo de Jean-Luc Mélenchon est beaucoup plus intéressante, je trouve, parce que Marine Le Pen, on sait, elle traite ceux qui soutiennent Emmanuel Macron, ça c'était mardi soir, elle les a traités de France soumise à la France. Donc elle a repris le vocabulaire de Jean-Luc Mélenchon, c'est un vol lexical intégral depuis dimanche soir.
Alors Bruno Roger Petit, vous, cette vidéo de Jean-Luc Mélenchon, on attendait sa prise de parole depuis dimanche soir, ne pas donner, finalement il n'a pas apporté plus de solutions que ça, et c'est vrai que beaucoup de gens à gauche le critiquent pour sa non-prise de position, il continue finalement.
Mais derrière la veste Mao, il y a le grand timonier du pédalo, pour reprendre une expression célèbre. Moi je me demande si tactiquement, justement en vue des législatives, puisqu'il annonce qu'il veut être le leader de la France insoumise aux législatives, il n'est pas en train de se tromper. Moi, je prends le rolling de l'IFOP, la Bible en ce moment, qui tombe tous les jours en fin d'après-midi, et j'ai regardé précisément ce qu'étaient les reports de voix de ces électeurs aujourd'hui. 49%, plus 5 depuis hier, vont voter en l'état aujourd'hui Macron. Ils étaient 19 hier à vouloir voter Marine, ils sont plus que 15% aujourd'hui. Marine et le reste est dans l'abstention, une trentaine de pourcents. Ça veut dire quand même, je veux pas préjuger, mais j'ai quand même le sentiment que la moitié des électeurs qui étaient venus voter pour lui et qui venaient du Parti Socialiste, et grosso modo je suis à peu près sûr que c'est ceux qui vont voter Macron, ne l'écoutent pas, n'écoutent pas la consigne, n'ont pas envie de s'abstenir ou de voter blanc. Et c'est quand même un problème pour lui, parce que ce sont pas des électeurs captifs. Moi, je rappelle que ce que pèse le front de gauche Mélenchon dans toutes les élections locales depuis 2012, c'est grosso modo entre 6 et 9% des voix. Et je pense que si par réflexe de retour à la maison naturelle, voire d'envie de voter En Marche parce que l'élection d'Emmanuel Macron pourrait avoir changé l'état d'esprit général, ces électeurs-là l'abandonnent, et ben ils risquent de se retrouver repliés, comme d'habitude, sur sa base électorale fondamentale qui ne dépasse pas les 8-9%. Et avec 8-9% des voix, vous avez 15 députés, s'ils sont bien ancrés, et en plus, des députés le plus souvent du Parti communiste, c'est-à-dire qui ne sont pas du tout des mélenchonistes de premier rang.
Exactement. Éric Scholl.
Ça, c'est effectivement, il y a une partie de calcul électoral du côté de Mélenchon. Mais aujourd'hui, alors que tout à l'heure, on disait qu'il y avait quand même des dérapages du côté de Marine Le Pen, en réalité, elle n'a pas passé une si mauvaise journée que ça. Parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit d'une part qu'on a quand même un candidat, Dupont-Aignan, qui appelle à voter pour elle. Donc lui, il a fait quand même 4 ou 5% la semaine dernière. Et maintenant, quelqu'un qui est quand même beaucoup plus puissant, hein, pratiquement 20%, donc Jean-Luc Mélenchon, qui, eh bien, n'a pas appelé, en tout cas, à voter, enfin, n'a pas appelé à voter directement pour Macron, et a préféré rester dans l'abstention. Et franchement, quand on le voit, c'est pendant 2 minutes. Il est resté extrêmement flou. Il n'a pas du tout pris les engagements. Après toutes les critiques qu'il a reçues depuis 3-4 jours, on pouvait s'attendre à ce qu'ils disent et qu'il soit plus clair dans ses propos, dans ses recommandations. Il ne l'a pas été du tout.
On va continuer à parler de Jean-Luc Mélenchon dans un instant. On parlera bien sûr de la journée aussi d'Emmanuel Macron. C'est presque une émission sportive en fait. Les Informés de France Info revient dans quelques minutes.
Et si appeler depuis et vers l'étranger ne coûtait pas plus cher?
Et moi, avec mon forfait Pro Orange, que j'appelle Londres depuis le bureau ou mon équipe depuis Londres, ça ne me coûte pas plus cher.
Ah, ok. Bah, moi, en plus, dans mon forfait Pro Orange, j'ai le Brésil, le Maroc...
Peut-être, mais moi, en plus, je peux utiliser mes 40 gigas partout en Europe, au Canada et aux États-Unis.
Hein. Et moi, dans les DOM.
Et moi, dans les TOM.
Avec le forfait Performance Pro Intense Travel, votre forfait Orange devient aussi international que votre business. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions sous réserve d'éligibilité. Plus de détails sur orangepro.fr.
Le festival Jazz sous les pommiers. Une semaine de musique live, de création, de concerts inédits et de rencontres musicales. Pat Metheny, Youssouna, Yann Garbarek et Trilogue Gourtou, Jean-Luc Ponty, Biréli Lagrène et Kyle Eastwood, Dafer Youssef, Oumou Sangaré, mais aussi Jim Peterson, Hiromi et Edmar Castaneda, Erel Besson, Fred Hersch, Anne Passeo, Sylvain Rifflet, Alani. 36e édition de Jazz sous les pommiers, du 20 au 27 mai à Coutances en Normandie. Renseignements jazzsouslespommiers.com avec la région Normandie.
France Info Météo avec Gauthier. Fabricant français de mobilier contemporain, à découvrir dans nos magasins et sur gauthier.fr.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Un week-end partagé, ce sera agréable. Demain, un peu de brouillard au nord de la Loire jusqu'en Alsace. De belles éclaircies pour l'après-midi. Ailleurs, un beau soleil, plus voilé quand même sur le quart sud-ouest et même couvert vers le sud de la Garonne l'après-midi avec peut-être une ondée. Ce sera encore frais le matin, quelques gelées, mais l'après-midi, ça se réchauffera. On sera de saison pratiquement partout. 15 à 19 degrés au nord, 17 à 22 au sud. Dimanche, retour de la pluie et des averses. Il restera du soleil vers le nord-est. On n'aura plus de gelées, 4 à 12 degrés. Il fera 17 à 21 degrés l'après-midi. Un peu moins vers le nord-ouest, 12 à 15. Et puis lundi, à nouveau un ciel d'averse, des températures plus fraîches, une moyenne de 14 degrés au nord l'après-midi et de 16 au sud.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Fanny Bouvard, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Emmanuel Macron en meeting à Châtellerault et en direct, en même temps dans une cinquantaine de villes. Son discours doit débuter dans quelques instants après une journée déjà bien chargée, marquée par une rencontre avec l'ancien Premier ministre de droite, Jean-Pierre Raffarin, mais aussi une visite très symbolique d'Oradour-sur-Glane, ce village de Haute-Vienne où la population a été massacrée par les Allemands en juin 1944. Dans ces moments-là, dans ces lieux-là, il n'y a plus de petites divisions, plus de clans et de fractures. A lancé le candidat d'En Marche qui une nouvelle fois s'est posé en rassembleur. Son adversaire Marine Le Pen, elle, reçoit le soutien ce soir de Nicolas Dupont-Aignan. Le candidat de Debout la France vient de l'annoncer sur France 2. Après avoir fait durer le suspense toute la journée, un accord de gouvernement a bien été signé. Marine Le Pen qui annonce ce soir qu'elle donnera d'ailleurs avant le second tour le nom de son potentiel futur Premier ministre. Et pour éviter la polémique, le Front National a préféré aujourd'hui changer à nouveau de président par intérim. Steve Briouat, le maire d'Hénin-Beaumont, remplace ainsi Jean-François Jalque, accusé d'avoir tenu des propos négationnistes, des propos qu'il dément. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui qu'on apprend que Steve Briouat est visé par une information judiciaire pour des propos haineux à l'encontre du maire de Sevran. Visé également le maire de FN de Fréjus, David Racheline. Une plainte avait été déposée en octobre dernier. 100 jours de présidence aux États-Unis, cela fait très exactement 100 jours que Donald Trump est au pouvoir. Et il en a profité aujourd'hui pour faire des confidences à l'agence de presse Reuters. Et il avoue qu'il regrette parfois sa vie d'avant, Donald Trump.
I loved my previous life. I had J'aimais ma vie d'avant, je faisais plein de choses, mais là, il y a beaucoup plus à faire. Je pensais que ça serait plus facile. Je suis quelqu'un de consciencieux, mais ma vie d'avant me manque. J'aime travailler, donc ce n'est pas un problème. Mais être président, c'est beaucoup de travail. Avant, j'avais peu d'intimité car j'étais célèbre, mais aujourd'hui, j'en ai encore moins. On est dans un cocon ultra sécurisé et protégé et on ne peut aller nulle part. J'aimais quand je sortais au restaurant, même si les gens me reconnaissaient. J'aimais conduire et là, je ne peux plus conduire.
Donald Trump qui répondait à l'agence de presse américaine Reuters. Ce retour en France et sur les routes. L'autoroute A47 est en ce moment coupée près de la commune de Saint-Chamond dans la Loire, coupée en direction de Saint-Étienne à cause d'un fort risque de chute de blocs de pierre. En itinéraire bis, une voie de circulation est ouverte dans le sens inverse. France Info, il est 20h33 et c'est le retour des informés, la deuxième partie avec Jean-Mathieu Pernin et tous ses invités.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils prennent des bains réguliers dans l'océan Atlantique de l'actualité. Ce soir, les informés de France Info reçoivent Soazic Kemener de Marianne, Isabelle Vera Masson, chercheur au CNRS, spécialiste de communication médiatique, Bruno Roger Petit, éditorialiste à Challenge.fr, et Eric Scholl, directeur de Courrier International. Justement, Isabelle Vera Masson, nous étions en train de parler de Jean-Luc Mélenchon, qui a donc posté cette vidéo sur son site internet, son journal de campagne, hein, comme il l'intitule depuis maintenant quelques mois. Vous en avez pensé quoi, justement, vous ?
Alors, moi, je ne l'ai pas regardé en entier. Non,
ça durerait, il faut juste dire 32 minutes.
Hein, oui, c'est ça. Donc, j'ai regardé en revanche Marine Le Pen chez Rutel Krief, mais je n'ai pas regardé Jean-Luc Mélenchon. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on a le sentiment, quand on voit Jean-Luc Mélenchon, qu'il est sur un petit nuage de bonheur, de puissance, et qu'il en profite de manière peut-être un peu abusive. Mmh. Et alors qu'il devrait se rappeler, et là, je vais plutôt dans votre sens, que tout de même, il doit ce bon chiffre, cet excellent résultat électoral à la baisse de Benoît Hamon. C'est évidemment parce qu'il y a eu un transfert des voix socialistes de Benoît Hamon vers lui. Ce ne sont pas des voix mélenchoniennes de base, d'origine, profondément inscrites. C'est pour ça qu'effectivement, certaines personnes, j'en ai vu, se sont mises à pleurer le jour des élections quand il a refusé d'appeler à voter contre Marine Le Pen, ou plutôt de voter Macron, et que probablement sa prise de position beaucoup trop neutre, beaucoup trop floue, sera mal acceptée, est très mal comprise par ceux qui ont voté pour lui, qui pensaient qu'il votait pour un Benoît Hamon de gauche. Mmh. Hein, c'était juste un vote un peu plus clair et plus utile. Donc il y a eu un mélange de vote de gauche et de vote utile vers Jean-Luc Mélenchon qui ne justifie pas, à mon avis, ce sentiment de puissance qu'il a.
Mais celui qui m'énerve.
Alors je suis pas tout à fait d'accord. Alors effectivement, il y a eu des voix socialistes qui sont nettement reportées. D'ailleurs, ça se voit dans les fiefs comme Lille, par exemple, hein, dans des grandes villes, arrive en tête. Mais je pense qu'il y a aussi ce phénomène des jeunes, et puis il y a aussi une partie, petite partie, mais une partie qui compte, de vote ouvrier. Il a su reparler, la gauche qui reparle aux ouvriers, ça c'est important dans la campagne de Mélenchon. Moi j'ai trouvé cette vidéo très très intéressante parce qu'elle a permis de lever évidemment plusieurs questions qu'on se posait depuis dimanche. Première chose, il reconnaît effectivement, et ça explique sans doute son comportement qui est très étonnant, tout le monde s'attend à ce qu'il dise évidemment très très vite qu'il faut faire barrage au Front National et voter Emmanuel Macron, en tout cas, parce qu'on connaît tous Jean-Luc Mélenchon, c'est un repère dans la vie politique française, qu'on l'aime qu'on l'aime pas, c'est quelqu'un qui a toujours été très net dans ce combat-là. Donc tout le monde s'attendait ça dimanche.
On se souvient notamment en 2002 où il avait tout de suite appelé à voter Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen.
Bien sûr, et puis on se souvient qu'il était allé à Hénin-Beaumont face à Marine Le Pen pour un combat législatif qu'il avait perdu dès le premier tour. D'ailleurs, mais il y était allé. Donc c'est ce repère-là dans la vie politique française. Et tout chancelle dimanche. Et pourquoi tout chancelle dimanche? Il l'explique là, un peu penaud. Il explique qu'en fait, il s'est laissé abuser. Il s'est laissé abuser par ses bons sondages. Il s'est laissé abuser par la dynamique. Et il y a vraiment cru. Donc, sur son canapé, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il explique. Première chose. Ouais. Ensuite, on comprend aussi. Alors, c'est quelque chose qu'on avait commencé à entendre au début de la campagne. C'était sa dernière campagne. Il le disait pas de façon nette. Il l'a jamais dit publiquement, mais en privé, il disait voilà, dernière campagne présidentielle. Et puis, on voit que la dynamique les sondages, le fait justement qu'il ait des bons scores dans des grandes villes, qu'il ait eu ce phénomène de pompage du vote socialiste, fait que finalement il a envie de continuer. Et donc c'est aussi pour ça qu'il s'est tu depuis dimanche, parce qu'il pense qu'on va aller au-delà du clivage droite-gauche globalement, et qu'il pense que appeler au Front Républicain, c'est quelque chose d'un ancien monde. C'est ce qu'il dit, même si c'est très compliqué dans son histoire à gauche de soutenir ce genre de position aujourd'hui.
Éric Scholl, vous-même, ce message aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon.
Alors, il y aura forcément une certaine influence, mais relativement limitée, parce qu'après tout, ces électeurs sont aussi des insoumis et sont surtout pas des godillots. Donc, à mon avis, ils vont faire leur choix en conscience, et leur choix en conscience ira naturellement, à mon avis, en partie, en tout cas chez Macron, mais en partie seulement. Et le fait de ne pas avoir un moment dit clairement les choses va faire que ça, voilà, que ça aurait été comme en 2002. Je pense que ça aurait été beaucoup plus clair. Et on peut franchement regretter ça par rapport, en tout cas, à ce qu'il avait été fait en 2002. Bon, maintenant, il n'a pas envie de faire comme les autres. Il n'a pas envie de faire peut-être comme de se retrouver en appelant à voter Macron le même jour qu'une Rachida Dati. Voilà.
Alors, juste, Isabelle Vermaçon.
Juste un mot. Je me suis quand même posé la question, et j'espère que je me trompe, s'il n'y a pas quelque part l'envie de se dire, eh bien, si elle gagne, eh bien, on verra ce qui se passera. C'est-à-dire que finalement, la recherche du chaos pour qu'un nouveau monde puisse naître. C'est quand même une tentation que la France connaît bien. Elle n'est pas la seule. On a une vieille tradition anarchiste, on a une vieille tradition révolutionnaire radicale. Et méfions-nous qu'il n'y ait pas chez ces gens qui feraient la politique du pire, parce que la politique du pire, c'est toujours les pauvres, les sans-grades, les petits qui le payent.
Qui en souffrent. Justement, Bruno Roger, juste une question. On a vu beaucoup de gens à gauche critiquer le silence de Jean-Luc Mélenchon. Même s'il est arrivé premier à gauche dimanche dernier, est-ce que il risque pas d'en souffrir ensuite? Ça veut dire, est-ce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui se disent « Ah, finalement, j'ai été peut-être un petit peu déçu, je m'attendais à quelque chose d'autre ».
On verra au soir du second tour, quand on saura effectivement qui parmi les électeurs de Mélenchon a choisi ou le vote Le Pen, ou l'abstention, ou le vote Macron. Mais pour aller plus loin encore par rapport à votre question, on est entré dans une phase de recomposition et de refondation, où chacun tente d'imposer son clivage. Donc vous avez Marine Le Pen qui vous dit dorénavant ce sera les patriotes contre les mondialistes. Vous avez Macron qui vous dit dorénavant ce seront les républicains patriotes contre les nationalistes souverainistes. Et puis vous avez Mélenchon qui est en train, lui, d'essayer d'importer un modèle qui s'est construit notamment en Grèce et en Espagne, qui est un modèle de démocratie radicale, qui est inspiré par une politologue qui s'appelle Chantal Mouffe, dont le livre vient de sortir en France, et il faut le lire si vous voulez comprendre la stratégie de Mélenchon. Il s'appelle « Construire un peuple pour une démocratie de la radicalisation ». Et aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'est exactement la mise en application de ce que préconise Chantal Mouffe. C'est-à-dire, il y a le haut, l'oligarchie, les puissants, des médias, des banques, tous les pouvoirs. Et puis il y a le bas. Et le bas doit être en rébellion permanente contre le haut. Donc, même quand Macron se retrouve face à Marine Le Pen, eh bien, contre ce haut-là, le bas doit toujours rester mobilisé, vindicatif, revendicatif, jusqu'à prendre le risque, effectivement, de construire un peuple dans la fracturation de ce qui peut faire lien entre les différentes parties d'une nation. Et c'est en cela que ce positionnement politique est extrêmement dangereux en France.
Dans un instant, on va parler de la journée d'Emmanuel Macron, qui était vraiment consacrée également à l'histoire. Ça, c'est dans un instant, puisque l'info à 20h40, c'est Pierrick Bonneau.
François Bayrou parle d'une immense honte. Le président du Modem critique ce soir sur Twitter le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen. L'ex-candidat souverainiste appelle à voter pour la candidate du FN tout en précisant que ce n'est pas une candidate d'extrême droite. Son parti Debout la France a conclu un accord de gouvernement avec le Front National en cas de victoire. Marine Le Pen annonce d'ailleurs qu'elle dévoilera le nom de son éventuel Premier ministre avant le second tour. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un guide, je vous connais assez pour savoir ce que vous ne ferez jamais. Jean-Luc Mélenchon s'adresse ce soir à ses électeurs sur sa chaîne YouTube. L'ex-candidat de la France Insoumise confirme qu'il ne donne pas de consignes de vote, mais assure qu'en aucun cas sa voix ira à l'extrême droite. Réponse d'Emmanuel Macron ce soir, les électeurs de Mélenchon méritent mieux que ces cabotinages. L'ancien leader du Front National, Jean-Marie Le Pen, a mis en ligne, lui, son dernier journal de bord vidéo. Le père de la candidate ne commente pas directement le score de sa fille au premier tour, mais il critique l'hommage national rendu aux policiers morts sur les Champs-Élysées il y a 8 jours. Jean-Marie Le Le Pen juge que cette cérémonie célébrait plus l'homosexuel que le policier, avec le discours de son conjoint notamment. Dans le reste de l'actualité ce soir, cette petite phrase de Donald Trump devant la NRA, le lobby des armes aux États-Unis. Vous avez un ami à la Maison-Blanche, lance le président des États-Unis, qui promet la fin de 8 années d'attaque contre le deuxième amendement, celui qui permet justement à chaque Américain de disposer librement d'une arme.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous allons parler de la journée d'Emmanuel Macron, mais juste avant, Eric Scholl, directeur de Cour International, ce que disait Bruno Roger Petit avant les titres. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, Syriza, qu'on connaît en Grèce, ou Podemos en Espagne, est-ce que ça influence toujours aujourd'hui la gauche radicale européenne
D'une façon assez forte, Chantal Mouffe, qui est en fait cette grande prêtresse en fait, du populisme, était en France récemment, donc elle est belge, elle enseigne en Grande-Bretagne, elle était en France récemment. Je l'ai vue au cours d'un débat organisé par l'IFRI. Il y avait à côté d'elle un représentant de l'AFD, donc ce mouvement populiste allemand. Il y avait un représentant de Donald Trump qui a fait campagne pour Donald Trump. Il n'y a aucune différence entre ces gens. Aucune différence. Alors que elle, au départ, vient plutôt de l'extrême gauche, de cette gauche, j'allais dire presque bolivarienne, puisqu'elle a passé d'ailleurs du temps en Amérique latine. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'y a absolument aucune différence. C'est ce qu'il définit, c'est précisément ce populisme. Et c'est ça, et elle a largement influencé non seulement Jean-Luc Mélenchon, mais aussi d'ailleurs, je pense un petit peu le candidat socialiste qu'il a rencontré.
Allez, décidément l'histoire.
Qui a moins trouvé le bon mode d'emploi apparemment.
Décidément l'histoire s'est invitée dans cette campagne en ce vendredi 28 avril. Marine Le Pen fait le ménage donc à la tête de son parti au moment même où Emmanuel Macron décide de se rendre à Oradour-sur-Glane, petite localité du Limousin où une unité de la Waffen-SS massacra 642 habitants le 10 juin 1944. Un déplacement symbolique pour celui qui invoque de plus en plus la République et ses valeurs et un peu moins son programme. Oui, le candidat d'En Marche vient apparemment de se rendre compte qui était son adversaire au second tour et l'histoire, maintenant, il l'invoque véritablement comme symbole et fait même des relations avec l'histoire contemporaine, Emmanuel Macron.
Ce devoir de mémoire, ce qui est porté ici à Oradour, l'engagement qui a été celui de la commune, celui des familles, celui des associations, de se souvenir, de préserver ce site et le vieux village où nous étions, c'est l'engagement de ne jamais oublier toute notre histoire. Et cette volonté à chaque fois de renaître, de reconquérir. Et c'est le visage que le nouveau village d'Oradour donne. C'est ce visage de la France, avec toute sa mémoire, que je veux porter aujourd'hui.
Voilà, Emmanuel Macron, donc aujourd'hui à Oradour-sur-Glane. Isabelle Vermasson, est-ce que, c'est vrai que depuis son discours d'Arras, mardi dernier, après cet épisode des Whirlpool, on se souvient, Emmanuel Macron se veut plus offensif, d'ailleurs, contre le Front National, et notamment sur les valeurs républicaines. Ça veut dire qu'il a compris aujourd'hui qu'il devait rassembler davantage.
Oui, alors j'espère que cette visite à Oradour n'est pas une instrumentalisation de l'horreur, enfin du drame de la Seconde Guerre mondiale. C'est plutôt en général Marine Le Pen, d'une certaine manière, qui sur ce terrain-là est attaquée. Là, il faudrait qu'il fasse un peu attention. Donc la question des valeurs, ce sera sûrement la question qui va cliver pour un certain nombre de gens, de Français. Je ne suis pas sûre que les jeunes, on en parlait, ou des gens pour qui l'histoire est devenue quelque chose d'un peu ancien et un peu, j'allais dire, ringard, ce soit si important. C'est dangereux. Je trouve que c'est à la fois l'occasion de parler de ce qui clive, de ce qui nous réunit ou de ce qui nous oppose, et en même temps, moi je crains, on l'a vu d'ailleurs en ce qui concerne l'Algérie, enfin la décolonisation, je crains que ce n'a ou indiffère ou choque. C'est quand même casse-gueule.
Sophie Kébénère, Emmanuel Macron, qui fait beaucoup référence à l'histoire en ce moment, justement il parlait du général de Gaulle, là donc à Oradour-sur-Glane. Ce matin, l'un de ses soutiens, Bertrand Delanoë, sur l'antenne d'RTL, dit que la montée de l'extrême droite, si on n'y fait pas attention, au final, ça donne, dans ces termes, je cite bien Adolf Hitler. On voit bien qu'il y a des références maniées aujourd'hui par l'équipe d'Emmanuel Macron.
Non, mais il y a un changement net de stratégie. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il s'est toujours présenté comme, on en parlait déjà tout à l'heure, d'abord hors système, hors du clivage droite-gauche, une nouveauté dans la politique française, qu'il est d'ailleurs. Et donc, quand il est victorieux dimanche soir, on a l'impression que pour lui, le Front républicain, finalement, c'est, et la présence de Marine Le Pen au second tour, c'est le reliquat d'une ancienne période. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit. Il dit, les anciens partis, regardez ce que vous avez fait. Vous avez fait Marine Le Pen, vous avez façonné Marine Le Pen. Et là, on voit quand depuis le milieu de semaine, il est en train de changer totalement de stratégie. C'est-à-dire que maintenant, il est investi parce que quelqu'un, quelque part, qui arrive au second tour face à Marine Le Pen, il est investi d'une mission, c'est vrai, une mission républicaine. Donc, il l'endosse tout à fait. Et c'est aussi pour ça qu'on a ces références historiques. Puis, il a besoin de, pour utiliser un terme qu'on utilise très souvent, mais tant pis, je vais le dire quand même, de se présidentialiser. Il a 39 ans, il n'a jamais été élu. Donc, il a besoin de rassurer notamment les électeurs de François Fillon. Il y a un vivier très important là. Il a besoin de leur montrer qu'il fait président et qu'il fera le job.
Bruno Roger Petit, on a entendu depuis dimanche soir quand même des soutiens d'Emmanuel Macron qui ont peut-être cru que seulement le programme d'Emmanuel Macron suffirait à battre Marine Le Pen. Est-ce que ça veut dire qu'au lendemain, il va peut-être y avoir des changements dans ce programme chez Emmanuel Macron quand d'autres personnes vont venir voter Emmanuel Macron pour faire barrage, dans ces termes, à Marine Le Pen ?
Je vais vous dire, bien malin celui qui peut dire aujourd'hui ce que fera Emmanuel Macron le 8 mai au matin. Je pense que le 8 mai au matin, il ira assister à la cérémonie
sur les Champs-Élysées
avec François Hollande, célébrant l'armistice du 8 mai 1945. Je pense qu'il n'en est pas là, parce qu'il ne connaît pas encore effectivement les contours définitifs de sa victoire. Sur la journée d'aujourd'hui, quand même, c'est très important, parce que c'est un candidat qui a le sens de l'histoire. Il a donné quantité d'interviews quand il était encore ministre de l'économie et des finances, puis en préparation de sa candidature, où systématiquement il fait référence à l'histoire. Il se présente justement comme celui qui veut réconcilier les mémoires par rapport à l'histoire.
Et pourtant, avec la décolonisation, il ne l'a pas tellement réconcilié, cette
mémoire. Mais la visite d'aujourd'hui, elle est importante, parce que d'abord, au Radour sur Glane, 642 personnes massacrées par les SS de la division de Das Reich, dont quelques Alsaciens, soit dit en passant, à l'intérieur de cette division. Et puis, c'est une terre. Cette terre-là, moi, je la connais bien. C'était celle de Marcel Rigoux. C'est une terre communiste, extrêmement résistante. C'est là où il y avait Georges Guingouin, qu'on appelait le Tito du Vercors. C'est une terre que visitait souvent François Mitterrand, qui rendait visite à Marcel Rigoux. C'est pas un choix qui est fait au hasard. C'est pas seulement au Radour-sur-Glane, hein, le symbole. C'est un symbole énorme. Mais c'est aussi toute l'histoire d'une certaine partie de la gauche républicaine et résistante dans cette région très particulière où on a le plus résisté par les armes à l'occupant allemand. Et à ses amis collaborateurs, parce que c'est ça aussi le message. Donc il faut pas... Je pense qu'il a raison, pour ma part, contrairement à ce que vous dites, d'y aller, parce que...
Il prenait un risque.
Mais il faut prendre ce genre de risque aujourd'hui, parce que si on ne se met pas, quand on est candidat à la présidence de la République, dans la posture de porter l'histoire en conscience, on n'a plus rien à faire à la présidence de la République.
C'est précisément ce qu'il n'a pas fait dimanche soir dans son premier discours. Et c'est ça, d'ailleurs, un peu le choc des images de la semaine. C'est que d'un côté, on a un candidat qui, gagnant le premier tour, n'est franchement pas à la hauteur, le soir, dans son discours, dans la rotonde, et quelques jours plus tard, on comprend très bien qu'il y a un message de communication où on lui dit effectivement de la gravité, il faut se représentialiser, c'est tous les mots qui ont dû passer cette semaine, et donc c'est très bien l'histoire, c'est parfait, à condition qu'effectivement ça l'habite. Alors, on a vu dans le passé qu'il a fait des références à Jeanne d'Arc, à la monarchie, à plusieurs reprises, mais si vous voulez,
du roi, qui est un peu différent.
Bon, si vous voulez, semaine un peu des écarts dans les images, et donc il y a une impression quand même à la fin de communication, et ça, je pense qu'en ce moment la communication c'est dramatique pour les candidats, d'ailleurs quels qu'ils soient.
Et pourquoi? Alors justement, ça dépend, parce que quand on a vu aujourd'hui, on voit par Marine Le Pen qui semble avoir sorti parce
qu'on l'a vu dans la campagne américaine, que la communication, regardez qu'est-ce qu'a fait Hillary Clinton pendant la campagne, de la communication du début jusqu'à la fin. Elle a eu d'ailleurs à peu près tous les people pour elle. C'est pour ça que quand je vois Zidane, quand je vois Luc Besson apporter leur soutien, je ne sais pas si c'est très utile. Je pense qu'il vaut mieux être dans le fond, sur le projet, que dans les coups de communication et les caméras braquées ici à Whirlpool ou là aujourd'hui à Radour-sur-Glane.
Alors juste faire juste une remarque.
Benoît Hamon a voulu faire une campagne invisible sans faire de coups de communication. Comme vous dites, il a fini à 6%. C'est pas la communication qui est le problème. C'est la communication qui ne correspond pas à l'authenticité de ce que vous êtes et de ce que vous voulez montrer. Et comme le dit très bien Gérard Collet, qui conseillait François Mitterrand, la communication, c'est comme la chirurgie esthétique. Quand ça se voit, c'est que c'est raté.
Allez, dans un instant, on va en parler justement de ses soutiens d'Emmanuel Macron. L'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan ont signé un accord de gouvernement. C'est ce qu'affirme ce soir l'ex-candidat de Debout la France chez nos confrères de France 2. Nicolas Dupont-Aignan appelle à voter Marine Le Pen au deuxième tour et explique qu'il va faire campagne avec la candidate jusqu'au scrutin. L'appel de Marine Le Pen aux électeurs de la France insoumise, court-circuité par Jean-Luc Mélenchon. Ce soir, la candidate d'extrême droite avait appelé les insoumis à faire barrage à Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Sur sa chaîne YouTube, Jean-Luc Mélenchon confirme ce soir qu'il ne donnera pas de consigne de vote, mais que personnellement, il ne votera en aucun cas pour l'extrême droite. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour deviner ce que je vais faire, glisse-t-il dans sa vidéo. La prise de position des champions du monde de 1998, celle de Lilian Thuram d'abord, l'ancien footballeur appelle sur France Info à se déplacer massivement pour voter en faveur du candidat En Marche. Un peu plus tôt dans la journée, Zinedine Zidane a appelé lui à éviter au maximum le vote FN. Et puis le souverain pontife est arrivé au Caire pour une visite d'un peu plus de 24 heures. Le pape a une grosse ambition, renouer le dialogue entre catholiques et musulmans. François doit notamment adresser un message de soutien aux chrétiens du Proche-Orient, victime d'attaques répétées du groupe État islamique. Il y a 3 semaines, des attentats contre des églises coptes ont fait 45 morts au total. Le pape a d'ailleurs visité l'une d'entre elles ce soir.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info pour être tout à fait complet hein, sur cette campagne. Un petit souvenir, puisque je ne sais pas si vous vous en souvenez, au moment de la campagne, Emmanuel Macron, un peu dépassé par le nombre de personnes de bord différents lui apportant son soutien, avait déclaré « En Marche n'est pas une maison d'hôtes ». Non, en fait, ça serait plutôt Tinder, avec une seule personne à séduire, Emmanuel Macron. Depuis le second tour, les apports de voix de personnalité affluent, on en parlait, mais maintenant, faut le gérer hein, tout ça. Manuel Valls fait sans arrêt des propositions de service et reçoit un vent à chaque fois. Laurence Parisot, candidate pour un poste à Matignon, et Jacques Attali, donc depuis hier, s'est particulièrement fait remarquer en disant que Whirlpool, c'est une anecdote, le cas de 300 personnes n'est pas du tout du ressort du président. Aussitôt critiqué par les proches de Macron et Benjamin Griveaux, le porte-parole du candidat qualifiant Jacques Attali d'homme du passé, il leur a répondu hier sur le plateau de Quotidien, Jacques Attali.
Je leur demande de lire ce que j'ai écrit, mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Demain, vous aurez trouvé d'autres...
Je comprends plus rien.
Demain, vous aurez trouvé d'autres anecdotes sur lesquelles vous intéressez, et j'espère que vous ne vous y intéresserez pas. En tout cas, moi, j'ai pas envie de répondre à ça, ça m'intéresse pas. Je voudrais qu'on regarde les programmes, je voudrais qu'on regarde le fond. Moi, j'ai ma conscience tranquille, je passe ma vie, pour l'essentiel de mon temps, à aider bénévolement, évidemment, des millions de gens à travers le monde et des milliers de gens dans les quartiers en difficulté à créer leur emploi. Alors, ce genre de choses ne m'intéresse pas.
Voilà, Jacques Attali, donc hier, donc sur le plateau de Quotidien, celui qui m'énerve, protégez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge, c'est la devise d'Emmanuel Macron aujourd'hui ou pas?
Oui, c'est clair. Mais je pense que, paradoxalement, même si c'est assez dévastateur ce qu'a pu dire Jacques Attali sur l'anecdote, l'anecdote de Whirlpool, mais je pense que paradoxalement, la période la plus difficile est passée. C'est-à-dire que la période la plus difficile, c'était avant le premier tour, quand il fallait doser à droite, à gauche et surtout pas paraître trop, même si ça a été très compliqué, comme un substitut, un nouveau François Hollande.
Mais il sait comment faire finalement, c'est ça en fait.
Mais je pense qu'il va y avoir énormément de déçus sur le bord de la route. Regardez, il a annoncé 15 personnes dans son gouvernement, beaucoup de personnes issues de la société civile. On voit bien que ça fera pas...
Pardon, excuse-moi.
Un tiers pas... société civile, un tiers
gauche, j'ai dit une bonne partie.
Mais sur 15 postes, ça fait très peu de points.
Exactement. Enfin, et donc on sent déjà le bal des déçus et il va y avoir énormément de... Alors, tout le pari d'Emmanuel Macron est de dire qu'il sera assez puissant au législatif pour n'avoir besoin de personne. C'est-à-dire, on voit bien le dépit de Jean-Christophe Cambadélis. On sait qu'il a frappé à la porte, qu'il voulait absolument qu'il y ait des discussions avant le premier tour et non, ça a été niette totale. Donc Emmanuel Macron pense qu'il est très fort sur les législatives et que ça, les électeurs vont pas revenir à leurs habitudes.
Voilà, PS, dans,
voilà, exactement. Et que sa révolution par les urnes passera aussi par les législatives. C'est un sacré pari.
Isabelle Vermasson, voilà, surtout ces soutiens compliqués parfois de les gérer parce que c'est vrai qu'ils viennent pas tous, enfin ils le soutiennent, mais parfois il y a des petits dérapages. On voit Laurence Parisot qui s'imagine déjà à Matignon. C'est un peu compliqué, en même temps toujours recadré, non?
Oui, c'est d'ailleurs pas mal géré, puisque c'est une fois un coup à droite, un coup à gauche, donc on imagine que les arrivées sont un peu quand même organisées avant. C'est à la fois effectivement une chance et un inconvénient. En revanche, je pense que sur les législatives, les choses vont être assez différentes de ce qu'il imagine. Je pense tout de même que les partis vont reprendre leurs habitudes, leurs forces, les repères vont se réinstaller, parce que finalement, Emmanuel Macron, il a quand même bénéficié de clins d'œil, de coups de pouce de l'histoire. Hein, c'est-à-dire que Fillon n'aurait pas dû être éliminé. Le programme de Benoît Hamon n'aurait pas dû être celui qui a été pressenti. Enfin, il y a eu tellement de choses qui justifient la place, qui n'est pas non plus extraordinaire, de Benoît Hamon, d'Emmanuel Macron. Il n'a pas plus que 24%.
C'est un gros nul.
Pardon ?
Non, c'est un gros nul. Il était inconnu il y a 3 ans.
Ah non, mais pour moi,
il est finaliste de l'élection présidentielle.
Pour moi, c'est totalement exceptionnel.
Il a fait 24% partant de rien.
Pour moi, c'est totalement exceptionnel.
Mais c'est un accident.
Pour moi, c'est pas. C'est quelqu'un d'exceptionnel qui a eu beaucoup de chance. Paraît que la chance fait partie de l'exceptionnalité.
Bien sûr.
Donc là, j'ai pas du tout.
Bruno Roger Petit. Je pense que la question qui se pose, c'est vrai, c'est pour les législatives, c'est qu'on voit quand même que Emmanuel Macron, elle a peut-être et le candidat avec peut-être moins d'adhésion aussi, c'est-à-dire vraiment sur les idées. On le voit dans les études. Par rapport à Marine Le Pen, même François Fillon.
60% de ses électeurs ont voté pour lui en se disant « ça ne changera rien à ma vie ». Mais c'était peut-être son atout, paradoxalement. Parce qu'au moins, c'est une façon d'être rassuré. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va perdre.
C'est pas très optimiste.
Non, mais c'est aussi un positionnement politique qu'il a imposé.
Mais c'est aussi la personne qui attire.
C'est l'élection présidentielle de la Ve République. Sur les législatives, il est aujourd'hui sur une ligne dure. Il est persuadé que les électeurs ont envie non seulement de congédier une grande partie de les Républicains, mais surtout du Parti Socialiste. C'est pour ça qu'il est sur cette ligne dure, parce qu'il est dans une logique complètement 5e République. Il pense que s'il est élu, et en plus, il est persuadé qu'il sera aidé parce qu'il n'y a pas de Front Républicain, et que les contours de sa majorité seront plus clairs, et que ce sera plus facile pour lui de faire ce qu'il appelle sa refondation. Donc il est persuadé qu'il y aura un raz-de-marée en marche, comme il y a eu en 81, je vais rappeler ça, un raz-de-marée socialiste entre les présidentielles et les législatives. Mitterrand fait 25,8% au premier tour de la présidentielle, les candidats PS émergés du premier tour des législatives sont à 38% et il y a une majorité absolue avec des gens, effectivement, qui venaient pas de nulle part, mais qui n'étaient pas des politiques professionnels. La Grande République des professeurs de collège.
Qui étaient identifiés
Isabelle Vermasson. Merci beaucoup Bruno Roger Petit. Merci Isabelle Vermasson d'être passée. Soyez caménaire, la une de Marianne cette semaine.
C'est une adresse donc à Emmanuel Macron. Monsieur Macron, à vous de réconcilier les deux France. On fait évidemment référence aux fractures françaises.
Éric Scholl, la une de Quoi l'International.
La menace, et donc rien n'est joué pour Macron, donné favori, la presse étrangère s'inquiète de l'implantation du Front National.